voix nue. Cette semaine, Odile Conseil rencontre François Morel. Ce soir, les déchiens avaient la grandeur d'Hamlet.
Bonsoir François Morel.
Bonsoir.
Nous vous avions laissé hier acteur débutant dans la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makaïev. Nous sommes en 1989 et vous allez passer une dizaine d'années dans cette troupe où vous serez, je crois, toujours Monsieur Morel.
Sauf à la fin où je serai Mascarille dans Les Précieuses Ridicules.
Mais pour l'essentiel, dites-moi si je me trompe, donc chaque acteur y est, donc vous Monsieur Morel, Yolande Moreau y est Madame Moreau, Olivier Saladin et Monsieur Saladin.
Ouais, je sais pas. Ça se fait un peu naturellement comme ça, en improvisation. Donc ça ne s'est jamais vraiment décidé. Le premier spectacle qu'on avait fait, c'était Lapin Chasseur. Et donc il y avait une façon aussi de jouer. On était jeunes par rapport à la personne très âgée que vous avez en face de vous. Mais à l'époque, on était jeunes et donc on avait l'impression qu'on sortait d'une école hôtelière. Et même, je crois que c'est France Roche qui avait fait un papier qui avait notamment agacé Lorella Cravotta, qui, elle, sortait du Conservatoire de Paris, et où elle avait dit c'est Jérôme Deschamps a choisi des gens sortis de l'école hôtelière pour faire son nouveau spectacle, ce qui nous avait un peu agacé, parce qu'on avait envie d'être comédien, et on avait envie d'être reconnu comme comédien.
Ce qui prouve aussi que vous jouiez très bien, puisque vous y regardez
oui,
des gens qui...
C'est un hommage, en fait, certainement. Oui, oui.
Mais est-ce que c'est difficile d'être Monsieur Morel sur scène, donc un personnage, et François Morel dans la vie?
Non, mais à une époque, c'est vrai que quand on m'appelait Monsieur Morel sérieusement dans la vie, je sais pas si j'allais à la banque ou je sais pas quoi, j'avais toujours l'impression qu'on se moquait de moi ou qu'on m'appelait par mon pseudonyme alors que c'était mon vrai nom. C'était un jeu comme ça. C'était un jeu. Entre nous, je crois que c'est beaucoup né entre Olivier Saladin et moi. On s'appelait Monsieur Morel, Monsieur Saladin. Donc c'était des gens qui étaient très jeunes et qui se prenaient très au sérieux aussi. Enfin, les personnages qu'on montrait dans Lapin Chasseur, ils étaient... Moi, j'avais un costume, une cravate, etc. Donc,
vous êtes le maître d'hôtel ou quelque chose comme ça.
Je suis le maître d'hôtel, oui. Oui. Mais c'est un spectacle formidable, Lapin Chasseur. C'est de Jérôme Deschamps et Macha Makaïev. C'est une idée de spectacle absolument formidable.
C'est un spectacle recto verso, pourrait-on
dire. C'est ça. C'est-à-dire que on jouait deux fois la même chose. Il y avait une partie salle et une partie cuisine, et c'est le public qui changeait de place à l'entracte.
Donc il y avait, le public était en deux moitiés.
C'est ça.
Et ce...
Donc c'était merveilleux parce que ça jouait aussi sur la frustration et sur la mémoire. C'est-à-dire qu'en première partie, on était frustrés parce que on entendait des gens rire de l'autre côté et on se disait mais pourquoi ils rient? Alors que quand on rit dans une salle, on ne s'entend pas forcément rire ensemble. En revanche, on entend le rire décalé en face. Donc ça jouait sur la frustration, dire mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, et ça marchait aussi sur la mémoire dans la deuxième partie, parce qu'on se disait ah oui, il se marre de l'autre côté, parce que Yolande fait une traversée qui est extraordinaire.
Alors il y a eu donc Les Frères Zénith, Les Précieuses Ridicules, un certain nombre de pièces qui ont été jouées. Quels sont les rôles qui vous ont le plus marqué? Qu'est-ce que vous avez préféré de cette époque-là, avant Les Déchiens,
hein? Je dirais pas, ce sont pas des rôles. C'est-à-dire, j'ai jamais endossé un rôle. Je me suis amusé à trouver un personnage qui se déclinait un peu d'un spectacle à l'autre. Mais c'est une période où on n'a jamais appris un texte et où on n'a jamais dit, le metteur en scène n'est jamais venu vers moi en disant, tu vois, le personnage, c'est un type comme ça. On n'a jamais parlé de ça. Jamais. On inventait des choses, on allait sur le plateau, des fois on ne savait pas du tout ce qui allait se passer, ce qu'on allait faire, et puis il y a une chose qui naissait, et tout d'un coup ça devenait un petit moment de théâtre formidable ou affligeant, et puis ensuite Jérôme et Macha tricotaient tous ces moments-là pour en faire un spectacle qui prenait sens.
Ah oui, c'était basé vraiment sur l'improvisation.
Ouais, sur l'invention des gens. On était sollicités par les metteurs en scène, mais on inventait aussi beaucoup entre nous. Jean-Marc Billour, par exemple, était très présent dans l'invention des choses visuelles. Par exemple, je me souviens que il y avait un placard qui s'ouvrait de façon automatique dans Les Pieds dans l'eau, et je sais que Jean-Marc Billourd avait mis au point, enfin avec Jérôme évidemment, tout ça se faisait ensemble.
Jérôme Deschamps,
ouais. Et finalement, c'était plus drôle quand c'était Olivier Saladin qui faisait marcher ce placard-là automatique, parce que physiquement, Olivier raconte quelque chose du monsieur bricoleur, banlieusard, qui essaie d'être bien dans son petit confort intérieur, quoi. Il y avait un truc comme ça.
Ce qui caractérise la troupe, c'est l'humour. Et est-ce que c'est donc vers ce monde théâtral que vous vouliez aller, j'allais dire, depuis toujours? Vous n'avez jamais rêvé d'être tragédien, de jouer Tchekhov, Sophocle?
Je ne rêvais pas de ça. Ça a pu m'arriver d'avoir des expériences comme ça. J'avais joué le rôle d'Achillas dans La mort de Pompée, du regret.
Achillas, c'est celui qui tue Pompée, c'est l'un de ceux qui tue Pompée.
Voilà, du regretté Corneille. Et c'était Brigitte Jacques qui faisait la mise en scène. Et ça s'appelait le Corneille colonial, c'est-à-dire qu'on était un peu habillé comme dans Tintin en Afrique, Tintin au Congo. Et je me souviens que moi j'étais en Bermuda et j'ai un copain qui m'avait vu donc dans la tragédie de Corneille, Jean-Pierre Lory, et qui m'avait dit comme critique à la fin du spectacle, s'il y en avait un qui aurait pas dû être en Bermuda, c'est toi. Donc, je veux dire, je ne suis pas le garçon le plus crédible pour jouer ce genre de tragédie.
Et depuis, personne ne vous a fait des propositions et vous n'avez pas sollicité.
Ben non, mais je peux jouer des choses un peu plus éloignées, quand même. Enfin, pas forcément de rigolade, mais je pense aussi que s'il y a une absence totale d'humour, je vais être mal. J'ai besoin qu'il y ait un peu d'humour. Et, par exemple, dans Tchekhov, il y a de l'humour. Je crois que je peux jouer ça. Enfin, dans Molière, évidemment. Dans Corneille, Racine, je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour ce répertoire. Oui.
Alors, à propos d'humour, écoutez ce que Yolande Moreau vous écrit à propos de l'ambiance donc, qui régnait dans la troupe. C'est dans l'introduction d'un de vos recueils de chroniques. Elle dit « Tu nous bluffais par tes réparties, mais que de rigolades, que de jeux imbéciles. Les bagarres à la farine pendant les saluts de « C'est magnifique » ou pendant les saluts de « Lapin chasseur » quand je devais retenir ma jupe élastiquée à la taille parce que tu tirais dessus. » C'était ça l'ambiance, mais c'est très humour potache, non?
Très potache, oui, oui. Un mélange en même temps, parce que Yolande, c'est quand même un personnage. Il faut quand même s'arrêter 2 minutes sur Yolande, qui est un personnage très drôle, burlesque, qui raconte quelque chose de... Je sais pas, ça fait penser à des peintures d'Ensor ou des choses comme ça. Il y a une poésie inouïe chez elle, quand même. Et c'est vrai que, moi, j'ai pas, par exemple, c'est magnifique, elle joue elle est merveilleuse, quoi. C'est-à-dire, c'est drôle, mais ça raconte aussi une tragédie, et vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de Mercourage dans ce qu'on voyait, dans ces magnifiques où elle pousse un caddie, elle chante une petite chanson qui pourrait faire penser à un petit air portugais, tout ça. Sa maison vient d'être détruite, elle va en construire une ailleurs. Enfin, ça raconte plein de choses extrêmement fortes et poétiques avec presque rien. Et peut-être que ça rejoint mon amour du dessin d'humour. Justement, c'est le presque rien pour raconter tout un univers.
Alors, François Morel, venons-en aux Deschiens. Donc les fameux sketchs des Deschiens qui ont été diffusés sur Canal+, c'est ça, je pense, qui vous a rendu célèbre, si vous acceptez l'adjectif. Donc vous y êtes donc, Monsieur Morel, fromager, français moyen, voire très moyen, qui parle avec l'accent normand, l'accent de l'Orne, précisément.
Ouais, l'accent de l'Ouest, en fait, hein, j'ai l'impression. Parce qu'il y a plein d'endroits où on disait, oh, vous êtes de chez nous, vous. Enfin, si on était en Mayenne ou en Bretagne ou en Normandie, c'était un...
C'est pas de l'appropriation culturelle.
Non, c'est un accent moyen de ces régions-là, oui.
Alors, ce monsieur Morel, il a l'air assez plouc, disons, avec ses lunettes façon sécurité sociale.
Du donc, oui.
Non, pas plouc.
Comment vous qualifiez-vous? Ben c'est un rural. Oui, moi, je m'inspirais des voisins de ma grand-mère.
Alors, juste pour mémoire et pour ceux qui auraient été absents de la planète Terre pendant ces années-là, les Deschiens, c'était des courtes scénettes filmées le plus souvent en plan fixe, hein, je pense.
Tout le temps.
Qui mettaient en scène la famille Morel et quelques autres personnages. Donc les dialogues, c'était comme pour les pièces dont vous nous avez parlé, de l'improvisation pour l'essentiel, ou c'était écrit, très écrit ?
C'était pas écrit, puisque j'ai jamais eu un texte entre les mains. Donc tout a été inventé au moment où on filmait. Alors de temps en temps, ça s'écrivait comme ça au fur et à mesure devant la caméra. C'est-à-dire que parfois, la première prise était d'emblée formidable et on la gardait. Et puis de temps en temps, ça se construisait. Tiens, je me fais chier à lire des livres, tout ça. Ça venait comme ça, puis la réplique était marrante. Et puis tout d'un coup, il y avait Yourcenar. Pourquoi tu l'as pas lu ? Et le Poulidor arrivait tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Si, je sais pourquoi d'ailleurs. Pour moi, c'est mon oncle Marcel qui était fou de cyclisme et qui lisait plein de biographies de sportifs, etc., que sa fille allait chercher à la médiathèque de Flers. Donc j'étais inspiré par ça. Ça veut pas dire que c'était du tout ce personnage que je jouais, mais je m'en inspirais, quoi. Donc ça se construisait comme ça au fur et à mesure, et parfois on faisait plusieurs prises jusqu'à ce que la prise soit jugée bonne et drôle, et avec un début, une fin, etc.
Mais le début, précisément, c'était décider de qui allait commencer à dire quoi, et est-ce que l'autre ou les autres qui sont à l'écran à ce moment-là savent ce qui va être dit ?
Pas toujours, non, pas toujours. C'est-à-dire parfois, souvent, en tout cas, Jérôme Deschamps nous lance en disant « tu vas parler de ça avec Yolande ». Et puis, de temps en temps, pour m'amuser, je suis pas du tout son idée et je parle d'autre chose. Et comme c'est drôle et qu'il se passe un truc, on va au bout de cette idée-là. Enfin, ça dépend, il y avait pas vraiment de règles. Ça se construisait comme ça, ensemble, tous ensemble, quoi.
Alors, François Morel, Monsieur Morel, oui. Les Deschiens ont été accusés parfois de se moquer des petites gens, de la France d'en bas. Est-ce que c'est une critique que vous acceptez ?
Moi, j'ai pas à l'accepter ou pas, parce que c'était pas mon ressenti, moi. D'abord, parce qu'avant de faire partie de la troupe de Jérôme Deschamps, j'étais spectateur des spectacles de Jérôme Deschamps. Je crois que l'un des premiers spectacles que j'avais vu s'appelait Les Oubliettes. Et quand j'avais vu ce spectacle-là, je m'étais dit, oh, on dirait Fernand, le voisin de ma grand-mère, qui était garde-barrière à Saint-Bromère-les-Forges. Et je me disais, mais j'avais jamais vu Fernand sur une scène de théâtre. Donc le fait de montrer ce personnage-là, même si on en riait, même si il était un peu bizarre et s'il faisait rire, il avait la grandeur d'Hamlet puisqu'il était sur scène et qu'on lui donnait cette importance-là. Donc moi, c'est comme ça que je ressentais les choses. Souvent, ces critiques-là venaient de gens qui étaient un peu condescendants et qui ne savaient tellement pas comment parler de la misère qu'on nous accusait de nous moquer des pauvres. Moi, c'est pas du tout ce que je ressentais. Et puis parce que il me semble aussi, mais peut-être qu'on le ressent plus quand on va voir les spectacles, quand on allait voir les spectacles, que quand on voit les petits moments de Canal+, c'est que c'était pas un projet sociologique, quoi. C'était un projet plutôt pour... Même, j'oserais dire, des fois poétique, parce qu'il y avait énormément de poésie dans les spectacles. Je sais pas, un spectacle comme Les Frères Zénith, par exemple, c'était très poétique, c'était très drôle et très poétique. Un soir, Madame Rothschild était philippine de Rothschild.
Panadine.
Non, Panadine.
Moi, je connais plutôt Nadine.
philippine, alors, qui était venue voir un spectacle. Les Frères Zénith, on était des clochards célestes, des pauvres gars qui jouaient avec une planche, qui tout d'un coup hurlaient en prenant un peu la voix de Gilles Vigneault, qui évoquait aussi des moments de... Jean-Marc était sur une barque, il chantait un air italien, mais des pauvres gars qui jouaient avec des assiettes, qui avaient quand même des smokings, mais très élimés, on voyait qu'ils étaient quand même pas brillants. Et bon, Madame de Rothschild voit ce spectacle-là et dit à la fin, c'est merveilleux parce que ces personnages-là, c'est nous. Et évidemment, on n'avait pas spécialement pensé à la famille Rothschild quand on avait répété ces spectacles-là, mais c'était assez joli qu'une femme comme ça puisse aussi se reconnaître dans ses Deschiens.
C'est l'humanité, quoi.
Je crois.
Alors, dans ces sketchs des Deschiens, vous utilisez beaucoup de grimaces, des mimiques. Est-ce que, du coup, ça ne vous a pas influencé? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté de trouver refuge parfois dans les grimaces pour l'acteur que vous êtes?
C'est-à-dire que moi, je n'en suis pas du tout conscient.
Au moment où vous parlez, d'ailleurs, vous faites une grimace.
C'est moi que je suis désolé, mais c'est pas, je ne fais pas une grimace. Je ne cherche pas à vous faire rire. C'est ma tronche, hein, je n'y peux rien. je ne cherche pas à faire des grimaces. Je travaille pas devant une glace en me disant oh, comment je vais faire rire avec mon sourcil. Je m'amuse à peu près de la même façon que je m'amusais quand j'étais à l'école et que je faisais rire mes copains.
Alors vous avez aussi joué donc sur scène un certain nombre de textes du répertoire. En vrac, hein, je cite « Mais ne te promène donc pas toute nue » de Feydeau, « Feu la mère de madame » du même Feydeau, « Les dialogues de Roland Dubillard » que vous avez joué avec Jacques Gamblin, ça vous a plu?
Ah oui, mais à chaque fois que j'ai joué au théâtre, j'avais envie de le faire. Hein. J'ai jamais fait un truc à contre-cœur au théâtre. Je prends la décision un peu avant, je réfléchis parce que je sais que ça peut durer 6 mois, 3 ans, etc. Donc on a intérêt de. Enfin bon, ça peut être une mauvaise expérience qui vire mal, mais d'une façon générale, non. Donc moi, je suis heureux de toutes les expériences théâtrales que j'ai pu faire. Feydeau, c'était en l'occurrence le plaisir de jouer avec Valérie Mérès que j'avais rencontré sur un film de Lucas Bellevaux, et puis c'était
un couple épatant,
ouais. Et c'était travailler aussi avec Tilly, dont j'admirais les spectacles, il y a Bonbon Boula notamment que j'avais adoré et qui était un peu déplacé dans ce répertoire là, mais son sens de la précision était très utile pour ce répertoire-là. Et oui, c'est un beau spectacle. Jacques Gamblin, c'était les dialogues de Dubillard. Je crois que l'un des premiers spectacles que j'ai vus, c'était dans un café-théâtre, et ça s'appelait « L'eau en poudre ». C'était des sketchs de Dubillard, joués par Jacques Seller et Marc Dudicourt, dans un petit café-théâtre, pas loin de Montparnasse, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et donc, je savais, moi, ça m'avait fait énormément rire, j'avais adoré ça, et donc j'avais un bon souvenir des textes de Dubillard. Et les jouer, c'est intéressant, parce que quand on lit ça en préparant le spectacle, par exemple, sous la couette, en disant, voilà ce que je vais jouer, on se dit comment on va réussir à faire rire avec ça. C'est pas drôle du tout. Ça ne parle que de la mort, de la finitude, du désespoir, du rien. Et finalement, sur une scène de théâtre, magiquement, il se passe un truc quand il y a une complicité entre les comédiens, tout ça, qui fait que c'est un spectacle qui effectivement parle de tout ça, mais avec une espèce de légèreté et de grâce qu'avait sûrement apporté aussi la mise en scène d'Anne Bourgeois.
Et puis vous avez été Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme, donc après quand même une grande flopée d'acteurs, donc Michel Serrault, Molière évidemment, le premier à avoir fait Le Bourgeois, Galabru, Bigard, figurez-vous que Jean-Marie Bigard a fait Un Bourgeois, vous le saviez sans doute, et vous étiez... Quelle sorte de Monsieur Jourdain dans cette mise en scène de Catherine Hegel, hein, je crois.
Ouais, moi j'avais le souvenir d'un film, d'une mise en scène, peut-être de Jean Meyer, et c'était Louis Seignier qui jouait le rôle de Monsieur Jourdain. Il y a eu un film, donc j'avais pas eu la chance de le voir au théâtre à la Comédie Française, mais j'avais vu ce film-là et je me souviens que j'avais beaucoup ri et je m'étais dit mais alors on peut rire avec Molière autant qu'avec Fernand Reynaud. Et donc pour moi j'avais gardé ça dans ma tête. Il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie de comédien qui sont nées d'impressions très lointaines de l'enfance. J'ai vu ce film-là, Le Bourgeois Gentilhomme, avec Louis Seignier, j'ai adoré ça, je trouvais le personnage très drôle, à la fois, il est soutenu à la fois par quelque chose d'assez agressif, c'est un petit patron, enfin, ça aurait pu être joué aussi par Louis de Funès, c'est-à-dire c'est un méchant, et en même temps, il a une telle envie d'apprendre que ça l'éclaire et que ça rejoint une part d'enfance qu'on a tous. Et c'est comme ça que j'ai essayé de le jouer, avec cette part d'enfance.
Oui, mais à la fois donc bonnet, mais méchant.
Ouais, mais c'est vrai, vous m'avez résumé.
C'est tout vous. Et puis François Morel, on ne peut pas parler de votre carrière sur les planches sans parler de Vos, de Raymond De Vos. Donc votre spectacle « J'ai des doutes », entièrement constitué de textes, d'aphorismes, de choses d'ailleurs pas du tout connues, mais toutes ayant été écrites par De Vos. Ça vous est venu d'où cette envie de faire revivre Bedeau sur scène? Quand je dis les choses pas du tout connues, je pense par exemple à cette chanson qui revient comme un gimmick dans le spectacle « Je hais les haies qui sont des murs ».
Oui. Comment ça m'est venu? Ça m'est venu d'une sollicitation. Je n'aurais jamais eu l'idée de faire un spectacle sur De Vos ou à partir des textes de De Vos. C'est Jeannine Rose qui, en 2016, m'appelle et me dit « C'est le 10e anniversaire de la disparition de Raymond De Vos ». J'ai très bien connu Raymond De Vos à l'époque où j'étais secrétaire de Barbara et j'aimerais bien qu'on lui rende hommage. Et voilà, je discute un peu avec elle et elle me propose de faire une matinée au Théâtre des Champs-Élysées, qui est quand même l'un des plus beaux théâtres de Paris, le plus impressionnant, où j'ai vu Charles Trenet notamment. Et donc et chaque fauteuil est un chef-d'œuvre là-bas au Théâtre des Champs-Élysées. Enfin, c'est vraiment un très beau lieu. Elle me dit « J'aimerais bien que tu fasses une lecture, spectacle, un matin, un dimanche matin, à 11h, tu as le théâtre pour toi, et tu lis des choses de Raymond De Vos. » Donc je dis oui, d'accord, et au départ ça devait être juste une représentation. Et puis je travaille avec mon complice Antoine Salaire, on s'amuse, on déplace certains textes, il y a des textes qui sont tellement connus qu'on se dit on ne peut pas les faire comme De Vos. Évidemment, je me dis, il ne faut pas que je cherche à imiter Raymond De Vos, mais je pourrais pas d'ailleurs, et puis ce serait raté, donc il faut que je trouve moi ma façon de dire ces textes-là drôles et poétiques, extrêmement bien écrits, et puis aussi essayer de trouver mon musical à moi, parce que pour moi le souvenir que j'avais de Raymond De Vos, c'était surtout un homme de musical, et j'avais adoré le voir sur scène, je trouvais qu'aujourd'hui, on se moquait un peu de lui, de Raymond De Vos, en disant, quand on faisait un jeu de mots épouvantable, on disait, tu fais pas du Raymond De Vos, alors que Raymond De Vos.
Ah bon?
Oui, je trouvais, il y avait un côté, s'il y avait des références dans l'humour, on citait forcément Pierre Desproges et forcément Coluche, mais jamais Raymond De Vos. Ça me semblait un peu injuste, parce que moi j'avais un souvenir lumineux des spectacles de Raymond De Vos.
Oui, qui était aussi acrobate, jongleur.
Voilà, musicien. Sûrement pas très bon acrobate, sûrement pas très bon musicien, sûrement pas très bon jongleur.
Mais meilleur que vous.
Bah oui, mais c'est un génial homme de scène. C'est-à-dire qu'il se sert de tout. Enfin, parce que après, en regardant de près, on voit que des fois, il est un peu imposteur sur la musique, notamment. Et moi, ça me dérange pas d'être imposteur non plus quand je suis sur scène, parce que le principal, c'est l'impression que le public va avoir devant ça, quoi. Donc, de temps en temps, je fais mine de jouer du piano, mais c'est pas du tout moi qui joue. Mais on s'en fout. Le principal, c'est l'émotion que le spectateur va ressentir, quoi. Et j'ai envie de l'épater, en fait, j'ai envie, comme De Vos, de le prendre par la main et de l'entraîner vers cet imaginaire, quoi.
Mais du coup, pour préparer ce spectacle, vous n'avez pas revu beaucoup de ces spectacles à lui, parce qu'il ne s'agissait pas du tout de s'imprégner justement de sa façon de parler, de son phrasé qui était assez particulier.
Ouais, j'ai pas beaucoup revu de choses. J'ai pas cherché à revoir. En même temps, ça m'arrivait de voir des trucs, mais pas. J'ai lu ses textes. Tout a été édité, donc je pouvais lire les textes en me disant ça j'ai envie de le jouer, ça j'ai envie de prendre juste ce morceau-là. Enfin, j'ai fait un peu ma. Et puis je me suis pas non plus interdit de rajouter des choses. Donc ce qui était pas. J'en étais pas sûr au départ, mais c'est pas un monument non plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est un. Les humoristes, faut pas les prendre pour des monuments. C'est des gens de music hall. Donc, ça se vit dans l'instant. Et ce qui est merveilleux, justement, quand on voit un spectacle de De Vos, c'est que c'est le bonheur de l'instant. Le music hall, c'est ça. C'est le bonheur de l'instant. Il arrive, il se fait un truc, il y a un rire dans la salle, il réagit tout de suite dessus. Enfin, c'est pas la messe, c'est pas l'église. D'ailleurs, c'est dommage quand les gens étaient à genoux devant Raymond Devos en disant c'est le plus grand comique depuis qu'il est passé chez Jacques Chancel et que l'Académie française lui a fait des mots doux. Tout d'un coup, ça devenait le comique officiel. Alors que c'est pas ça, c'est un clown, quoi. La dernière fois que je l'avais vu à l'Olympia, j'étais assis à côté d'un type qui récitait tout une demi-seconde avant Devos. C'était épouvantable. C'est pas... Donc... C'est un clown, quoi. C'est le clown que j'ai aimé.
Alors, il y a les textes des autres, François Morel, et puis il y a vos textes à vous. Par exemple, La fin du monde est pour dimanche, que vous avez écrit à La Rochelle en 2013. Donc, apparemment, ce sont des textes que vous aviez déjà écrits, qui dormaient dans des tiroirs, et que Benjamin Guillard vous a proposé de coudre ensemble pour en faire un spectacle. Est-ce qu'un texte que vous aviez écrit prend une nouvelle dimension quand il est sur scène? Est-ce que ça n'a rien à voir?
Bah, ça a à voir, mais c'est un peu différent, quoi. Justement, c'est souvent même des textes qui ont été écrits pour l'émission Le Fou du Roi, émission à laquelle je participais au début des années 2000. C'était des chroniques. Par exemple, il y a un texte sur Sheila. Le jour où Sheila est venue, j'avais fait une petite fan de Sheila qui... Enfin, une petite femme, une dame qui avait le même âge que Sheila et qui n'avait pas eu la même évolution et qui parlait de son amour pour Sheila. Et c'était, quand je l'ai fait, je me suis dit, ah, c'est joli, il y a un truc à creuser un peu plus et je sentais qu'il y avait de quoi en faire du théâtre. C'est-à-dire mettre une robe, l'imaginer dans une cuisine, à la radio, écoutant Sheila, et tout d'un coup, il se passait un truc assez émouvant, assez drôle, pathétique et assez touchant.
Et ce texte où un homme raconte son histoire d'amour avec une huître, c'était le jour où une huître était invitée du Fou du Roi.
Non, ça c'était une espèce de petite nouvelle que j'avais dû écrire et je ne sais pas. Et ça devait être une métaphore, mais une métaphore de je ne sais pas quoi.
Bon, il faudrait parler aussi, mais en quelques mots, peut-être de bien des choses. Un autre de vos spectacles qui est un échange de cartes postales entre le couple Brochon et le couple Rouchon, ouais, que vous avez joué sur scène avec Olivier Saladin. Là, il y a un côté très bidochon. C'est revendiqué?
Pas vraiment. C'est un peu aussi les enfants des chiens et tout ça. Mais, oui. Parce que c'est des surnoms qu'on avait donnés, Brochon et Rouchon, à Olivier Broche. Rouchon, c'était le surnom de Philippe Roesch, qui était l'accordéoniste et mélodiste merveilleux des chiens. Et... Donc on s'était amusé sur le départ, sur l'idée du voyage, sur le fait qu'on allait au bout du monde et qu'au bout du monde, je crois que j'avais trouvé ça dans une pièce de Jean Sarment. Donc ça nous rajeunit pas. Et je me souviens qu'un personnage disait qu'il était allé au bout du monde et qu'au bout du monde, il avait pensé au petit bistrot où il allait prendre son verre de blanc tous les matins. Et je me suis dit, c'est ça que ça raconte bien des choses.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Odile Conseil avec François Morel. À voix nue, réalisation Anne-Pascale Desvignes, prise de son François Rivalan, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.